Dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Les longues files de réfugiés qui quittent aujourd'hui leur pays le font pour des raisons évidentes. Ils fuient la guerre et la mort, ils fuient aussi l'intégrisme, l'obscurantisme et la dictature. Ces personnes, comme nous, aspirent à la liberté, l'égalité et la fraternité.
Ce drame actuel a bien des similitudes avec ce qui s'est passé à la fin de la guerre d'Espagne, il y a 76 ans.
Avec Jean Vaz, nous allons évoquer ces événements d'hier, parce que l'exode d'aujourd'hui de ces milliers de Syriens, Irakiens, Afghans, Érythréens rappelle dramatiquement sur de nombreux points la retirada des républicains espagnols.
Ce soir, il sera question de l'exil des républicains espagnols en 1939. Ce soir, il sera question des réfugiés d'aujourd'hui. Ce soir, il sera question de frontières et de murs à abattre.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
Moi, je m'appelle Jean Vaz Aranzales, parce que depuis que j'ai la double nationalité, j'ai récupéré le nom de ma mère, donc. Je suis né à Decazeville, dans une famille espagnole et dans un environnement espagnol, de réfugiés espagnols, et plus précisément dans un environnement libertaire, qui était mon père et des cousins de ma mère aussi, venus d'Espagne. J'ai été enseignant toute ma vie. Si je recommençais ma vie, je serais enseignant de nouveau, parce que tout passe pour l'éducation. Hein? Et donc voilà, donc maintenant je vais avoir 74 ans le mois prochain, en décembre, et le tempo passe, hein? et voilà, et je travaille beaucoup sur la mémoire espagnole, sur la mémoire de l'exil espagnol. On a créé une association il y a une douzaine d'années, on a un peu pinaillé pour trouver le nom. Et du fond de la salle, quand on cherche, on ne voulait pas que ce soit une association anciens combattants. Et donc, on cherchait quel mot associer à memoria. Et du fond de la salle, un gars qui est désgracieusement mort maintenant, a dit « andando ». Et donc, d'un point de vue de la syntaxe, ce n'est pas très correct, « memoria andando ». Mais c'était tellement beau. Et voilà, et on essaie d'être une mémoire donc en marche, c'est-à-dire avec une prise assez directe sur l'actualité espagnole, etc. Donc voilà.
La garde d'assaut marche, boum bada boum bada boum bam bam. La garde d'assaut marche, boum bada boum bada boum bam bam. Au centre téléphonique, ay Carmela, ay Carmela. Au centre téléphonique, ay Carmela, ay Carmela. Défi aux prolétaires, boum bada boum bada boum bam bam. Défi aux prolétaires, boum bada boum bada boum bam bam. Provocation stalinienne, ay Carmela, ay Carmela. Provocation stalinienne, ay Carmela, ay Carmela. On ne peut laisser faire, boum bada boum bada boum bam bam. On ne peut laisser faire, boum bada boum bada boum bam bam. Le sang coule dans la ville, ay Carmela, ay Carmela. Le sang coule dans la ville, ay Carmela, ay Carmela. Pour mes failles sénètes, boum bada boum bada boum bam bam. Pour mes failles sénètes, boum bada boum bada boum bam bam. A Vessel, brille Barcelone, ay Carmela, ay Carmela. Ay Carmela, ay Carmela. République s'arme, boum badaboum badaboum bam bam. La République s'arme, boum badaboum badaboum bam bam. Mais d'abord contre nous autres, aïe Carmela, aïe Carmela. Mais d'abord contre nous autres, aïe Carmela, aïe Carmela. À Valence et à Moscou, boum badaboum badaboum bam bam. À Valence et à Moscou, boum badaboum badaboum bam bam. Le même ordre nous condamne, aïe Carmela. Le même ordre nous condamne, aïe Carmela, aïe Carmela. Ils ont juré d'abattre, boum badaboum badaboum bam bam. Ils ont juré d'abattre, boum badaboum badaboum bam bam. L'autonomie ouvrière, aïe Carmela, aïe Carmela. Pour la lutte finale, boum badaboum badaboum bam bam. Pour la lutte finale, boum badaboum badaboum bam bam. Que le front d'Aragon vienne, aïe Carmela, aïe Carmela. Que le front d'Aragon vienne, aïe Carmela, aïe Carmela. Camarade ministre, boum badaboum badaboum bam bam. Camarade ministre, boum badaboum badaboum bam bam. Dernière heure pour comprendre, aïe Carmela, aïe Carmela. Dernière heure pour comprendre, aïe Carmela, aïe Carmela. Honte à ceux qui choisissent, boum badaboum badaboum bam bam. Honte à ceux qui choisissent, boum badaboum badaboum bam bam. L'aliénation étatique, aïe Carmela, aïe Carmela.
Justement, puisque le but de l'émission, c'est un petit peu de faire d'évoquer ce qui arrive en Europe avec cet accueil ou cette réserve sur l'accueil des migrants, j'ai lu un texte récemment écrit par Memorial Dando qui faisait un petit peu le parallèle, ou qui essayait de faire le parallèle entre ce qu'était l'exil des réfugiés politiques en 1939 et cet accueil de migrants qui arrive en 2015. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu que fuyaient les migrants qui sont arrivés en février, dès février 1939 en France et qui venaient d'Espagne?
Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal l'histoire espagnole, je rappelle en deux mots qu'en juillet 1936, en juillet 1936, le 18 juillet, une grande partie de l'armée espagnole se soulève contre le gouvernement légal de la République en s'appuyant sur l'Espagne noire, l'Espagne réactionnaire, l'Espagne catholique. Et très vite, en recevant l'appui de l'Allemagne nazie, de l'Italie mussolinienne, et on oublie souvent de dire du Portugal, salazariste, qui envoie quand même 50 000 hommes en Espagne. Donc c'est le début d'une guerre civile qui va durer presque 3 ans. Les républicains vont défendre pied à pied la République et pour certains la Révolution qu'ils ont essayé de mettre en place dès juillet 36, dès le 19 juillet 36. Mais le déséquilibre des forces était trop important. On parle souvent des antagonismes dans le camp républicain. On peut absolument pas penser que c'est ce qui a provoqué la défaite. La défaite, c'est que il y avait un déséquilibre trop grand entre des armées de métier super armées. Si on met les franquistes, les Allemands et les Italiens en particulier. Et donc, ils vont être acculés à la défaite quand la Catalogne tombe en janvier 1939. Et ils n'ont pas d'autre solution que de passer la frontière française, ou d'essayer du moins de passer la frontière française, parce qu'ils sont harcelés complètement par les avions, bombes, balles, qui les mitraillent sur les routes et sur le chemin. Donc toute cette population qui s'est concentrée à ce moment-là en Catalogne fuit vers la France.
Et elle fuit dans des conditions difficiles, c'était l'hiver.
Alors c'est en janvier puis février. En plus, la frontière est fermée jusqu'au 26 janvier pour les civils. Pour les militaires aussi, elle n'ouvrira pour les militaires que le 5 février, donc tout ce monde est dans les sentiers de montagne avec 50 à 60 cm de neige. sans le moindre abri, évidemment, et avec une résistance avec 30 000 hommes massés sur ces 100 ou 120 km de frontière entre Cerbère et Place Moyo, par exemple. Et donc, on y reviendra peut-être, mais un accueil qui a été un gros traumatisme pour tous ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, ça veut dire, en gros, on parle de 440 000, 450 000 personnes, presque un demi-million de personnes, avec 170 000 femmes, pour autant que je me souvienne, donc beaucoup d'enfants, des vieillards, des invalides, et à peu près 220 000 militaires ou miliciens. Voilà ce que suppose donc cet exil, mais qui se fait encore une fois dans des conditions très difficiles. Très difficiles d'abord parce que c'est le traumatisme de la défaite. Ils ont lutté quand même depuis juillet 36 jusqu'en janvier 39. Et ensuite, cette marche, qui est une marche harassante, ils sont affamés, il n'y a rien pour manger, presque tout ce monde traverse à pied, non? Depuis Barcelone ou plus bas, monte à pied, jusqu'à... Et puis aussi l'accueil, parce que l'accueil, pour les Espagnols, la France, c'était vraiment le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, et moi je sais, pour avoir connu beaucoup de gens qui ont passé la frontière à ce moment-là et qui ont été dans les camps, c'est un traumatisme à vie. Mon père me disait « Nunca les perdonaré ».
Ton père a fait cette marche, cette
brigade. Oui, bien sûr. Mon père est passé vraiment dans les derniers, le 13 février, au col d'Arve, qui donnait sur Praz-Moyo, qui était un camp de triage, on va dire. Hein. Mais là, il faisait des trous dans la neige pour se protéger du froid. Hein. Et pourtant, l'accueil du village de Praz-Moyo a été intéressant. Mais il n'y avait rien. La France n'avait rien prévu pour les accueillir, alors que depuis la bataille de Teruel et plus tard de l'Ebre, on savait bien que la guerre était perdue pour les Républicains, et on savait bien qu'ils allaient se précipiter sur la frontière française, parce que on savait aussi que chaque fois que les franquistes conquéraient une nouvelle partie du territoire, la répression était terrible, on fusillait à tour de bras, donc c'était la mort. Donc il fallait passer la frontière. Donc la vraie raison, c'est ça, c'est échapper à une répression terrible. Et donc voilà, donc il a, pour ce qui est mon père, il est resté peu de temps à Praz-Moyo parce qu'un cousin de Ducasville, immigré, gallego, claro, est venu et puis a essayé de légaliser un peu sa situation, l'a amené à Ducasville. Très vite, le commissariat à la police l'a renvoyé à Praz-Moyo. Après quoi, comme c'était un camp d'hébergement en quelque sorte, hein, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de baraque, il n'y avait rien du tout, il y avait la neige et le ruisseau. Ils n'avaient même pas besoin de mettre les barbelés parce qu'il y avait un ruisseau que tu ne traversais pas au mois de février, un torrent. Et après, beaucoup de Praz-Moyo ont été envoyés soit vers Argelès, hein, on en reparlera peut-être des camps, soit vers Sept-Fonds, à côté de Montauban. Mon père a atterri à Sept-Fonds où il y avait quand même 15 000 réfugiés.
Ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, y yo pregunto cuándo se pierde, cuándo. Si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos.
Donc, puisque tu en parles, tu évoques des plages, tu évoques des camps. Est-ce que tu peux nous dire à peu près en 36, février 36, le gouvernement, c'était qui était la tête?
C'est Daladier. C'était un gouvernement radical, centre-gauche, on va ouais. dire. Mais qui avait été précédé par les gouvernements Léon Blum, Front Populaire. Et ce Léon Blum, dont on a dit beaucoup de mal, c'était le quatrième exil en réalité, le quatrième exode des Espagnols, parce que tout au long de la guerre, quand le Pays Basque est tombé, à l'été 36, hop, il y a eu 7 à 8 000 Basques qui ont traversé la frontière. Quand tout le nord est tombé, Bilbao, Guernica, Bilbao, Santander et les Asturies, de nouveau exode par la mer vers la France de nouveau. Et là, ils étaient un peu plus nombreux, peut-être 15 à 20 000. Et ensuite, au printemps 38, le Haut-Aragon tombe. Pareil. Donc, et Blum a manifesté clairement, a dit ça, très souvent, que le droit d'asile devait être appliqué pour tous ces Espagnols qui passaient en France, avant le gros exil. Mais il y avait des pressions terribles de l'Angleterre d'abord, qui est la responsable certainement de la non-intervention, qui voyait très mal, les conservateurs anglais voyaient très mal cette agitation rouge en Espagne, et puis en plus ils avaient des capitaux importants en Espagne, donc le franquisme les arrangeait plus que la République. Et donc ça, puis la xénophobie qu'il y avait en France, c'était la crise des années 30 aussi, donc il y avait une xénophobie terrible, et donc il a fallu que entre 36 et 39, il y a eu toute une série de lois restrictives sur l'accueil. Et en 38, il y a eu tout un arsenal de lois sur les étrangers. Donc les autres arrivent en 39, barrière complète. Et donc qu'est-ce qu'on en fait? Parce que rien, c'est ce que je disais tout à l'heure, rien n'avait été prévu alors qu'on savait qu'ils allaient arriver. Mais voilà, rien. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les parque. Et dès qu'on ouvre Argelès, là, sur la plage, entre la mer et les barbelés, parce que c'est impressionnant quand même, on a mis 200 000 hommes, femmes, vieillards, tout. Après, on répartit Saint-Cyprien, le Barcarès, Agde, on répartit sur un grand nombre de camps, et très vite, en fin janvier, je pense, les femmes, les enfants, les vieillards, les blessés, on les fait monter vers les départements de Bretagne, de la Loire, tout ça. Et elles auront d'ailleurs, les femmes et mères, auront un meilleur traitement que les hommes, sauf celles qui restent, parce qu'il en reste à Argelès. Mais on a beaucoup de témoignages de ceux qui ont, des enfants qui avaient passé la frontière et qui se sont trouvés dans des camps d'hébergement, dans, tout au long de la Loire, autour la Bretagne, tout ça, où l'accueil quand même a été meilleur que dans le sud de la France, quoi. Donc ça a été un passage très difficile. Ces gens qui venaient de se battre pendant 3 ans pour la liberté, pour la justice sociale, ils arrivent en France, qui est vraiment le pays, le phare, on les parque en concentration, l'accueil, j'ai beaucoup de témoignages, je t'en donnerai quelques-uns si tu veux, l'accueil est presque toujours méfiant, mais souvent, très souvent hostile, hein. On verra que dans certains... Il y a eu des villages, il y a eu des personnes, il y a eu des associations, il y a eu des comités qui se sont faits pour aider. Mais globalement quand même, l'accueil a été mauvais. Hein. Tout à l'heure, j'ai relevé, là, parce que je l'avais lu, une à Argelès. Je vais te le lire, parce que ça, c'est trop... Argelès, donc, où on se retrouve après avec 70-80 000. Au départ, on avait mis près de 200 000. Le président du syndicat d'initiative d'Argelès se plaint auprès du ministre de l'Intérieur des, entre guillemets, sacrifices imposés aux habitants par la présence du camp. Au nom des habitants de la plage d'Argelès, bons Français, bons contribuables, bons serviteurs de l'humanité, tant qu'ils ne sont pas exploités, il interroge. Va-t-on les priver du bon air ? Pour la seule satisfaction d'Espagnols venus on ne sait d'où et on ne sait encore pourquoi. Voilà. C'est le président du syndicat initiative. C'est pas l'extrême droite, mais si tu veux des trucs. Alors à gauche, bien sûr, les journaux, non, les journaux disent, le populaire, l'humanité, le soir, disent, il faut qu'on accueille dignement les combattants de la liberté. Ils parlent de l'Espagne martyr sur le chemin de l'exil. Ils parlent des victimes du fascisme. Les journaux de droite, comme Le Matin et L'Époque, et Le Jour titre sur, et on va retrouver les phrases d'aujourd'hui, sur l'invasion des réfugiés, les débris de l'armée rouge, le dangereux envahissement, nous y sommes aujourd'hui aussi, l'indésirable invasion des miliciens espagnols présentés comme des êtres dangereux, et l'extrême droite, donc c'était Grégoire et Candide, les journaux d'extrême droite, hein, évoquent les débris du Front Populaire, espagnol, le torrent de laideur, les grandes gueules anarcho-marxistes, les bêtes carnassières de l'international, la tourbe étrangère, la lie des bas-fonds et des bagnes, la lie de l'anarchie mondiale. Et le 16 février, Candide interpelle le gouvernement en lui disant « L'armée du crime est en France, qu'allez-vous en faire ?»
C'est vrai.
Voilà, ça se présente comme ça. La réaction en France, c'est quand même, même si encore une fois, à gauche, les partis, les syndicats et tout un tas de comités se sont... Mais Federica Monseni, donc, qui était un des leaders du mouvement libertaire, dit « Le peuple nous contemplait en général avec inquiétude et hostilité. Nous portions le poids de tous les crimes qui nous avaient été attribués par la propagande franquiste. »
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leur rêve au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas sur cent, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Et elle n'a pas sur cent, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Dissonance, l'invité du mois, Jean Vaz, sur Radio Sainte-Afrique.
En Aveyron, arrive en 39, donc je l'ai noté quelque part, arrive 2300 réfugiés, femmes, enfants, vieillards, 2300 et quelques. Hein. Ils vont être répartis sur 43 communes de l'Aveyron et ils vont être accueillis avec plus ou moins de méfiance dans les zones rurales, mais ils vont être accueillis. Il y a des blessés, ils vont être accueillis. Et dans le bassin où il y a de Casville, effectivement, tout le soubassement espagnol issu de l'immigration économique va leur ouvrir grand les bras, hein, à tous ces réfugiés. Donc, bien entendu, qu'il y a eu, et moi j'ai des témoignages même dans la Loire ou en Bretagne où je suis allé là. Bon, les femmes, les enfants étaient relativement, bien accueillis.
Alors, pour faire le parallèle avec ce qui se passe en 2015 et avec ce fameux texte de Memorial Dand, il y a une question que vous posez qui me semble primordiale. Est-ce que les réfugiés sont un fardeau ou une chance? Qu'est-ce que tu penses des réfugiés de 39, 40, 41?
Bon, en plus, là, il se trouve pour 40, de 40 à 45, c'est la guerre, et donc la France manque de main-d'œuvre. Et sur deux plans, ils ont été très utiles. D'abord, sur le plan lui-même de la résistance aux Allemands, soit dans la résistance, soit dans l'armée, soit dans la Légion étrangère, ils ont été très présents, ils ont combattu jusqu'à la libération, jusqu'au nid d'aigle là-bas d'Hitler, ils ont combattu la Nueve qui faisait partie de la deuxième DB de Leclerc. Donc, tout de suite, ils ont été utiles sur ce plan-là. Et ensuite, sur le plan de l'économie, déjà dans ces années-là où tout le monde était mobilisé, dans les mines, dans les usines, dans les barrages, dans les forêts, dans les campagnes. Hein, beaucoup de ceux qui sont sortis des camps ont été employés comme ça, donc déjà là ils ont été très utiles, et on le disait dans notre texte sur ils ont travaillé, la plupart c'était des gens qui avaient entre 20 et 40 ans, ils ont travaillé toute leur vie en France, donc c'est un apport à l'économie. Politiquement, je crois qu'ils ont été également utiles, c'était les 30 glorieuses là où les syndicats en France avaient du poids, et je crois que l'exil espagnol a donné encore plus de force à la revendication syndicale en ces années-là. Culturellement, l'exil a été très important. Cet exil qui est resté quand même, malgré tout, tourné toujours vers l'Espagne, hein, vers l'Espagne, vers l'aide aux prisonniers politiques, vers les guérillas jusqu'au début des années 50, qu'ils alimentaient plus ou moins ou comme ils pouvaient. Donc, ils ont, jusqu'à la mort de Franco, il y a eu des centaines de publications dans les différentes tendances, où grosso modo les anarchistes, les communistes, les socialistes et les républicains qu'on appelait plutôt modérés, et les nationalistes, les catalans et les basques, mais tout ce monde-là pendant des années, mais en particulier le mouvement libertaire, parce que c'était le plus isolé, il n'avait pas de parents en France. Les communistes avaient le PCF, les socialistes ont vite trouvé le Parti Socialiste et Force Ouvrière, par exemple. Les anars étaient en quelque sorte déracinés par rapport à l'Espagne, où ils étaient très nombreux, puisqu'on chiffrait en 36 à plus d'1,5 million les adhérents à la CNT, et à 3-4 millions de sympathisants, mais sortis de l'Espagne, qui était leur camp d'expérimentation de leur idéologie. Arrivé en France, évidemment, ça a été plus compliqué. Donc, ils ont maintenu très fortement cette identité libertaire, mais à travers beaucoup de publications, des athénéos, des conférences, des festivals, et ça a duré jusqu'à la mort de Franco. Hein.
En ce moment, la droite fait une différence entre l'émigration politique et l'émigration économique. Qu'en pense Memoriandum et qu'en pense Jean Vasse ?
Memoriandum s'est créé sur la base de toute la descendance espagnole, c'est-à-dire les descendants fils, filles, petits-fils, petites-filles des immigrations des années 20-30, 1910, 1920, 1930.
Donc, immigration économique ?
Qui était une immigration économique. Ouais. Importante dans le bassin de Decazeville, et les descendants, bien sûr, la deuxième génération, les fils et filles des réfugiés politiques de 1939. Donc nous personnellement, on ne fait pas une grande différence entre l'exil politique et l'immigration économique, mais il y a toujours eu, bien sûr, des différences faites par les exilés politiques ont toujours considéré que par rapport, ils appelaient les autres los blancos, non, los españoles blancos, comme les Russes blancs, non, et que donc ils étaient plus politisés, ils n'étaient pas venus en France de manière volontaire, mais c'est ce qu'on dit toujours, hein, les immigrés économiques choisissent de partir, et non, ils choisissent pas de partir non plus. Ils choisissent pas. C'est la faim, c'est la misère, c'est l'humiliation, c'est qui les pousse, c'est l'oppression qui les pousse aussi à partir. Donc, moi, personnellement, je pense que les exils politiques sont à prendre en compte, peut-être prioritairement, parce que ceux-là, aujourd'hui, risquent leur vie, clairement. Risquent leur vie. Les Syriens, les Irakiens, les Érythréens, tout ça, ils risquent leur vie, et par conséquent, cela, il faut les accueillir prioritairement, parce qu'on ne va pas les renvoyer. J'ai oublié de dire tout à l'heure que dans ces camps où il y avait donc, au départ, il y avait 440 000 personnes, on en a renvoyé 200 000 en Espagne, sous la pression. Hein. Et les femmes et enfants sont arrangés comme ils ont pu, très mal, parce qu'ils ont été marginalisés toute leur vie en Espagne. Hein. Ils étaient marqués du signe républicain, mais beaucoup d'hommes ont été fusillés ou mis en prison pour très longtemps. Mais la France a renvoyé la moitié, près de 200 000 personnes en Espagne. Donc, sur l'exil lui-même, je reviens à la question tout à l'heure, mais sur l'exil lui-même, il reste en France 180 000 Espagnols, une fois que ceux qui sont partis là-bas, 3-4 000 qui partent en URSS, que les cadres du Parti communiste, qui sont accueillis en URSS. Je ne parle pas des enfants, hein, qui sont partis en 37, des Asturies, tout ça. Et puis, vers l'Amérique latine, il en part 30 000. Hein, Mexique, Chili, Argentine, Saint-Domingue. Donc, il reste en France à peu près 180 000 à 200 000. Et pour revenir à la question fardeau ou pas fardeau, et on le dit dans notre déclaration, là, les enfants, nous, les enfants, et nos petits et les petits-enfants, issus donc de ces Espagnols, réfugiés, ou déjà de la quatrième ou cinquième génération de l'immigration économique, on a une double culture pour la plupart d'entre nous, hein, mais évidemment, on a la culture française, et l'école française nous a permis à beaucoup d'arriver à des situations qui nous permettent aujourd'hui de peser dans le fonctionnement économique de la France. Alors, qu'on ne vienne pas me dire qu'on a été un fardeau. Mais quand on était gamin, quand même, la formule, elle est connue, des espèces de macaques où venaient manger le pain des Français, mais pas du tout. Ces gens-là travaillaient dans les mines, à Decazeville, par exemple, on ne mangeait pas le pain des Français. On exploitait, ils permettaient l'enrichissement des houillères en travaillant dans les mines. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu pareil. D'autant que, d'après ce qu'on entend, l'immigration syrienne, en particulier, contrairement à l'immigration économique, est souvent une immigration pauvre et peu cultivée, celle qui vient d'Afrique, il y a beaucoup, Enfin, il y a de tout certainement, mais par rapport à l'immigration économique, cette immigration-là semble, on entend là quand on fait témoigner des gens, c'est des gens qui ont des situations, qui étaient ingénieurs en Syrie, qui étaient... Et donc, j'avais lu aussi qu'il y a des études, hein, des études de, je vais le retrouver, de l'OCDE, de...
Dissonance, l'invité du mois, Jean Vaz, sur Radio Sainte-Afrique.
D'Eurostat, un gros truc de statistiques, et même de la Banque mondiale, hein, qui montre que l'immigration n'a pas d'impact sur l'emploi. Contrairement à ce qu'on dit toujours. Hein, n'a pas d'impact sur l'emploi, que les immigrés occupent soit des emplois peu qualifiés dans le bâtiment et la restauration que ne veulent pas les autochtones, hein, ou au contraire très qualifiés. Alors là, dans cet article, il prenait comme exemple les footballeurs, mais des ingénieurs ou des prêtres, et etc., que ne prennent pas non plus les autochtones, où il en manque. En France, on entend en permanence, c'est-à-dire qu'il manque des informaticiens, en Allemagne, pareil. Et par conséquent, ça ne joue pas, ça ne joue pas, et ils ajoutaient, et c'est, ça m'a paru très bien, dans notre économie tournée vers le tertiaire, l'emploi augmente avec la population. Ce n'est pas un gâteau figé qu'il faut se partager, mais une masse évolutive qui dépend beaucoup du dynamisme des sociétés. Or, les immigrés, aussi bien économiques que politiques, ils amènent un dynamisme très important dans les pays où ils arrivent, parce qu'ils veulent refaire une vie. Et pour refaire une vie, ils se relancent. Les gens le contestent toujours, et pourtant, c'est ça. Ils apportent à l'économie, même financièrement, ils apportent à la caisse de retraite. Alors qu'on te dit, ils pompent, on leur paie tout, on leur paie l'hôtel, on leur paie... Enfin, quand même, donc, des choses comme ça, il faudrait les afficher en grand. Mais c'est des statistiques. Il faut dire, voilà, non, en France, les immigrés, non, ça représente tant du produit brut, et ils cotisent tant aux caisses de la sécurité sociale et de retraite et compagnie. Mais ça, il y a un aveuglement terrible. Et donc, loin de là, c'est pas un fardeau, non.
Elle ne sait pas son âge, mais se souvient du temps où un morceau de lune est tombé dans l'étang. Personne de chez nous ne connaît son histoire, et les gens de la ville ont perdu la mémoire. Ce n'est pas l'étrangère ni la folle du hameau, c'est une petite fille qui fait des ronds dans l'eau. Elle regarde le ciel jouer sur son image, et les roseaux danser au milieu des nuages. Elle parle d'un oiseau qui est venu de loin, et d'un trou dans la terre près de la grange au foin. On n'a jamais cherché son château de merveille, ni la forêt d'amour où sa raison sommeille. Ce n'est pas l'étrangère ni la folle du hameau, c'est une petite fille qui fait des ronds dans l'eau. Elle marche dans son monde au-delà du miroir, et porte des bijoux qu'elle est la seule à voir. Des loups qui hurlent avec le vent, et un soldat blessé dans les sables mouvants. Personne de chez nous ne connaît son histoire, et les gens de la ville ont perdu la mémoire. Ce n'est pas l'étrangère ni la folle du hameau, c'est une petite fille. Elle est ronde dans l'eau. Elle jette les cailloux trouvés sur son chemin, et demande au soleil s'il sera là demain.
Dissonance, l'invité du mois, Jean Vaz, sur Radio Saint-Afrique.
À t'entendre, Jean, donc effectivement, dans vos réunions de Mémorial d'Inde, vous devez faire un parallèle entre ce qui s'est vécu dans les années 30, 39, 40, là, et ce qui se passe actuellement. Mais est-ce que vous évoquez, comme certains, le problème de la religion? J'ai des gens espagnols que j'ai entendu dire, oui, mais les Espagnols qui venaient,
oui.
Ils étaient catholiques. Et ceux qui arrivent maintenant, ils ne sont pas catholiques.
C'était même pas vrai parce que la plupart étaient athées.
Tout à fait,
ouais. La plupart étaient athées. Chez les femmes, on trouvait certainement beaucoup plus de reste. Mais pour moi, c'est pas fondamental. Mais bon, pour moi, c'est pas un vrai problème. C'est pas un vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, et pour des raisons qu'on connaît, qui remontent à Bush et compagnie, hein, pour l'Irak et compagnie, ils ont permis, ou ils ont provoqué le développement de l'islamisme radical, hein, déjà depuis l'Afghanistan, etc. Et donc, effectivement, cet islamisme radical qui est monstrueux, fait peur. Mais encore une fois, de la même manière qu'on traitait les réfugiés espagnols de terroristes, hein, ou de sanguinaires, la très 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 grande majorité de ceux qui demandent l'asile politique sont pas des islamistes radicaux, mais on s'en sert là, je crois, de prétexte. Donc pour moi, le problème de la religion, c'est pas un problème, et je pense que peuvent cohabiter, comme elles cohabitaient d'ailleurs en France depuis les années, les premiers musulmans qu'on fait venir en France, Renault, Peugeot, compagnie, dans les années 50, ils étaient musulmans. Ils étaient, et ils sont musulmans. Hein? Et donc, ça n'a jamais posé le moindre problème. Alors, c'est le nombre, mais on parle aujourd'hui de... Je sais pas,
24 000, c'est rien pour la France.
Non, mais des musulmans en France, on parle de 5 millions non, de musulmans. Oui. Mais ils n'ont pas posé de problème. Oui. Les problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est parce que la troisième ou la quatrième génération est dans la dèche. Et qu'ils ont trouvé d'autres solutions pour se sortir des problèmes d'emploi et compagnie, et qu'ils s'y sont installés. On peut aussi, je veux dire, on ne va pas les blanchir complètement, hein, mais que cette dernière. Et donc, on ne parle que de cette dernière génération et des excès de l'islamisme et de ceux qui partent combattre en Syrie. Et ces gens-là, je ne voudrais pas trop entrer dans ce débat, mais ils ont jamais eu d'identité en France. Jamais. Ils ne sont pas français, ils ne sont pas algériens, ils ne sont pas marocains. Hein, ils ont pas... Et donc on leur a offert une identité sur un plateau là.
J'ai vécu au siècle des réfugiés, une musette au pied de mon lit, avec la peur au ventre, des humiliés, des sans logis qui tremblent, les oubliés. Au mal parti ressemble. Ils sont toujours les bras ballants, d'un pied sur l'autre mal à l'aise, le cul posé entre deux chaises, tout étonnés d'être vivants. Ils sont souvent les en dehors, ceux qui n'écriront pas l'histoire, et devant eux c'est la nuit noire, et derrière eux marche la mort. Ils sont toujours les emmerdants, les empêcheurs, les trouble-fêtes, qui n'ont pas su baisser la tête, qui sont venus à contre-temps. Dans quel pays c'est malvenu, venir au monde en prison? Mais chaque jour on te pardonne, puis on ne te pardonne plus. J'ai vécu au siècle des réfugiés, une musette au pied de mon lit, avec la peur au vent. Des humiliés, des sans logis qui tremblent. Les oubliés au mal parti ressemblent. aussi sur les photos des magazines, essayant de faire bonne mine, emmenez-moi au loin d'ici. Ils ont des trous à chaque main, c'est ce qui reste du naufrage. Ils n'ont pas l'air d'être en voyage, les voyageurs du dernier train. Ils sont toujours les séparés, le cœur perdu dans la pagaille, les fous d'amour en retrouvaille qui les ramènent sur les quais. Et puis parfois le fol espoir, si elle a pu, si elle arrive, de train en train à la dérive, et puis vieillir sans la revoir. J'ai vécu au siècle des réfugiés, une musette au pied de mon lit, avec la peur au ventre.
Il se soulève le problème des frontières, parce qu'en fait, dès qu'il y a frontière, il y a pays, et dès qu'on veut fuir un pays, on est exilé, s'il n'y avait plus de frontières.
En Europe, déjà, avec le Schengen, il n'y avait plus de frontières, donc il y avait une circulation qui était libre, même si Merkel, elle a eu peur de sa générosité, elle a remis des frontières. Donc il y avait déjà un système. Moi, j'ai lu... Un gars qui travaille dans un groupe de travail, des chercheurs du groupe, je ne sais pas si tu connais, MobGlob, ça s'appelle Mobilité Globale et Gouvernance des Migrations. Et alors ce gars dit plusieurs choses qui sont intéressantes. Un, c'est qu'il serait prouvé, on va être au conditionnel. D'abord, il cite l'article 13.2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit: toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien. Déjà, c'est un article...
Dissonance, l'invité du mois, Jean Vaz, sur Radio Centrafrique.
Et donc, il semblerait que l'ouverture totale des frontières ne provoquerait pas d'afflux massif. Il donne plusieurs exemples. Mais bon, c'est pas moi d'ici, je ne vois pas. Entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, dans des pays africains, dans... Alors, les gens vont dire, oui, mais en Europe, c'est pas pareil. Mais il donne plusieurs exemples entre le Népal et l'Inde, par exemple, hein, en disant bon, on a constaté que ça provoque pas des mouvements de population, les gens ne partent que s'ils ont à partir. Hein. Et alors, ce que je voulais dire, c'est ils prétendent, dans 70 ans, des régions entières du monde seront rendues inhabitables par les changements climatiques. Des centaines de millions de personnes seront en mouvement. Il faudra repenser la distribution mondiale de l'humanité. Mmh. On en est là. Mmh. On en est là. Donc ça ne sert à rien là, de s'arbouter pour éviter de laisser rentrer donc, combien 12 000 personnes.
Pour la France, 24 000.
24 000 en 2 ans.
C'est rien.
En 2 ans. Mmh. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et donc, on va être affronté, mais très vite, à des mouvements beaucoup plus importants. Ça supposera quand même qu'il faudra remettre... C'est un problème de mentalité, il faudrait que les mentalités évoluent, mais parce que ça s'imposera, ça. Et par conséquent, les concepts de nation, d'identité nationale, tout ça, ça va être remis en question par la pression des mouvements migratoires. Et ça, non, là, on met la tête dans le sable, et on ne veut pas, alors que ça va devenir une réalité. Donc il faudrait commencer, là. Moi, je trouve, je le dis mais clairement, c'est la position de la France, entre autres, et d'un certain nombre, je ne parle pas de la Hongrie, hein, mais la position de la France dans cette situation, c'est une honte absolue. Mmh. C'est une honte absolue. À droite comme à gauche, ou à gauche comme à droite. Ces gens-là, voilà, c'est la pression de l'opinion publique. Et ça marche comme ça. Donc, mais fatalement, je ne sais pas, on ne le verra pas, nous, mais quand ça commencera à bouger de partout, eh bien, les mentalités changeront, devront changer, je pense.
Sont plaisants tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux dits, ces cités, avec leur château fort, leur église, leur plage. Ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leurs remparts. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher, qui vous montrent leur tour, leur musée, leur mairie, vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher. Qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète, ou du diable Vauvert, ou bien de Zanzibar, ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête, on trouve pas plus fin. Quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leur baudruche, leur bulle de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent, le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux même en bois rend jaloux tout le monde, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers, tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune, et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru, que la vie serait belle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards, preuve peut-être bien de votre inexistence. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Alors Jean, pour rappel, ce texte écrit par Memoriandando et qui s'intitule « Migrants et réfugiés de 1939, quelle leçon de l'histoire ?» et qu'on peut trouver un peu partout, notamment dans les mairies, les associations, et qui circule beaucoup sur Internet, se termine ainsi. En septembre 2015, et parce que les sondages indiquent qu'une majorité de Français ne souhaitent pas accorder l'asile à un certain nombre de réfugiés, le gouvernement hésite à les laisser entrer et annonce timidement le chiffre de 24 000 en 2 ans pour un pays de 65 millions d'habitants. Dans l'élan de solidarité qui semble aujourd'hui s'amplifier en France et comme beaucoup d'autres associations, partis et syndicats, l'association Memoria Andando demande au gouvernement de la France qu'il prenne ses responsabilités pour mettre en œuvre un plan humanitaire et solidaire d'accueil des réfugiés victimes des guerres. La solidarité des individus ne peut suffire. Aussi, nous appelons à la mise en place rapide d'une politique globale et à des actions coordonnées des institutions françaises pour que l'accueil de ces réfugiés soit à la hauteur du pays des droits de l'homme et que leurs conditions de séjour en France soient facilitées en ce qui concerne le logement, la nourriture et la scolarisation des enfants. Pour notre part, nous soutiendrons toute initiative qui ira dans le sens d'un accueil digne et humain. Memoria andando.
Et alors voilà, je peux revenir au texte, si ça débouche pas sur... Alors je sais pas, les actions concrètes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être accueillir, sous quelle forme tout ça c'est à discuter, accueillir, ou rassembler de l'argent, ou des habits, ou de la bourse, mais des actions concrètes, sinon on est dans le baratin, quoi. Tu comprends ? On va voir. Mais il faut aller vite. Mais il y a deux choses, c'est... se proposer pour accueillir et apporter ce qu'il faut apporter et faire la pression suffisante pour qu'on aille au-delà de ces 24 000.
Tout à fait, c'est rien du tout. Hein.
Il faudrait faire une pression. Mais c'est là qu'il faudrait qu'on soit dans la rue, tous. Mmh. Et c'est là qu'on devrait tous être dans la rue et y rester, et dire, mais partout. Et dire des millions de personnes en France qui disent, des millions... Ça sera, si on est à 65% qui ne veulent pas de... On serait 35%, mais déjà, si on était 30% dans la rue, ça ferait du bruit, et ça ferait une pression sur le gouvernement, sur les institutions, sur l'administration, les préfectures, tout ça. On ne le fait pas.
Et pourtant, on a un Premier ministre d'origine...
Ah ouais, ouais. Hein? Mais voilà, ça pourrait être significatif. Et Anne Hidalgo... Ils sont venus d'Andalousie con el macuto al hombro. Ouais. Les parents. Et elle, petite Oune. Et elle est maire de Paris, donc l'immigration, putain, mais c'est aussi ça. Mm-hmm. Hein? Et demain, on aura peut-être, je ne veux pas dire, un maire musulman à Paris.
Mm-hmm, tout à fait. Mm-hmm.
Et pourquoi pas? Et donc Valls, pareil. Bon, Valls, il a un parcours qui est différent, la famille Valls, mais voilà, il est d'origine. Sarkozy, merde, il est d'origine hongroise, et ainsi de suite. On pourrait multiplier les exemples de ce que l'immigration ou les exils, les exodes politiques ont apporté. Mais ça, là, les gens ne veulent pas entendre. Moi, j'ai lu, mais je n'ai pas relevé, des déclarations de personnes pour l'exil, pour l'exode espagnol. Et pour maintenant, des choses, tu dis, c'est pas possible, les gens, c'est pas possible, qu'ils disent, c'est barbaridades, barbaridades. Et ils les disent. Mais sur ce plan, l'Espagne, hier, on en parlait avec Lucas, là, l'Espagne a été, avec un gouvernement de droite, et de droite, la droite espagnole, le Parti Populaire, c'est pas rien. Il n'y a même pas besoin d'avoir une extrême droite en Espagne, tellement la droite est d'extrême droite. Hein. Eh bien, ils ont, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ils ont manifesté beaucoup plus de générosité que la France, qui fut le pays des droits de l'homme.
Qui fut
le pays des droits de l'homme. C'est terrible, hein? Non, c'est terrible, franchement, hein? Franchement.
Merci à Jean Vaz. Pour habillage sonore de cette émission, nous avons eu le bonheur d'écouter Ay Carmela, une version libertaire, une chanson de Léo Ferré, Les Anarchistes, Paco Ibáñez qui interprète Ya No Hay Locos, Gilbert Lafaye qui chante L'étrangère, Le siècle des réfugiés de Lenny Escudero et La balade des gens qui sont nés quelque part de Georges Brassens, interprété ici par Tarmac. Cette émission sera rediffusée lundi 26 octobre à 20h et mercredi 28 octobre à 11h. Ensuite, nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle émission de Dissonance. Salut et fraternité !